Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 février 2025 et j'étais un peu obligé de faire un épisode aujourd'hui parce que c'est la Saint-Alexis. Et donc voilà, le 17 février, c'est pas très important, pas la peine de m'envoyer des DM hein, pour me souhaiter la Saint-Alexis, j'ai jamais vraiment compris le délire des saints, etc. Cela dit, il y a une personne qui me l'a souhaité aujourd'hui quand même, voilà, mais ça, franchement ça fait plaisir et en même temps, même mes parents ne me l'ont pas souhaité, alors que je les ai croisés par hasard dans la rue tout à l'heure. Bref, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Néanmoins, aujourd'hui, on a 5 actus à vous partager. Ça fait beaucoup, 5, mais bon, en même temps, il n'y a pas de règle. Voilà, je fais ces épisodes un petit peu comme je le sens. C'est 5 petites actus, mais qui me paraissent très, très intéressantes et donc que j'avais envie de commenter. Et puis voilà, il fallait bien que je fasse un épisode aujourd'hui, quoi. Alors, première actu, c'est Google qui a sorti une fonctionnalité pour Gemini, donc dans Gemini Advanced. Alors, Gemini Advanced, c'est l'interface de Gemini. En fait, c'est un niveau de... C'est pas un modèle, c'est un des... C'est quand vous avez l'abonnement, je sais plus trop quel abonnement, mais voilà. Et donc, dans ce mode Advanced, enfin dans ce niveau de pricing, ou je ne sais pas comment dire, eh bien, ils ont ajouté une fonctionnalité, alors que je n'ai pas encore testé, mais je trouve très intéressante. Mais le problème, c'est que je n'utilise pas beaucoup Gemini. Moi, j'utilise un petit peu via Google AI Studio, que je trouve assez cool et dont j'ai déjà parlé. Mais donc, dans Gemini, ils ont ajouté 2 choses. Une chose qui n'est pas si nouvelle, qui est une fonctionnalité de mémoire pour que le Gemini se rappelle de choses que vous lui dites entre différents chats. Ça existe aussi dans ChatGPT déjà depuis quelques temps. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. En fait, quand il décide qu'il y a une information qui est importante, il la garde. Et puis, vous pouvez accéder à une base de données. Vous voyez tous les trucs, les mémoires, les memories qu'il a gardées, puis vous pouvez les effacer. J'imagine dans Gemini, c'est un peu pareil. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que ça va se généraliser dans toutes les interfaces de chat, j'espère le voir aussi dans Claude, etc. Mais un truc qui m'a le plus intrigué et qu'il faut que j'aille tester, c'est la possibilité de référencer des chats dans des anciens chats dans ces nouvelles conversations. Et c'est marrant parce que ça tombe juste à un moment où je viens tout juste de sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube où justement j'expliquais un petit peu comment faire pour garder de la mémoire entre les conversations en utilisant les projets et puis une petite technique de résumé. Si ça vous intéresse, allez voir. Mais donc c'est marrant parce que c'est vrai que c'est une petite bidouille en quelque sorte. Ok, aussi un peu une méthodo, un petit peu d'organisation. Mais voilà, mais donc c'est vrai que le mieux quand même, c'est de pouvoir discuter, voilà, lancer une conversation et faire référence à une ancienne conversation. Idéalement, dans un monde futur, je pense un jour ou l'autre, on n'aura même pas besoin de spécifier à quelle conversation on fait référence, il arrivera à retrouver lui-même. On n'y est pas encore. On a encore des limites sur les tailles de fenêtres de contexte, on a toutes ces choses-là qui nous brident un petit peu. Mais bon, on voit quand même que cette problématique un petit peu d'omniscience des agents conversationnels comme ChatGPT ou Gemini, eh bien voilà, est en train de s'améliorer. Donc c'est assez intéressant. Alors après, je pense qu'il faudra quand même toujours un peu essayer de structurer ces conversations, etc. pour en tirer profit, parce que sinon, en fait, c'est même pas une question technique, c'est juste que soi-même, on ne saura plus à quelle conversation faire référence, ça va être un peu le bordel. Moi, j'aime bien l'organisation par projet. J'aime bien un petit peu garder, choisir un petit peu ce que je garde des conversations. Voilà, bref, c'était un petit peu le sujet de ma vidéo, mais donc c'est marrant que ce soit sorti en même temps. Et il faudra que j'aille le tester un petit peu plus. Mais j'avoue que je ne suis pas hyper fan de l'interface de Gemini. Et puis, à vrai dire, je ne crois même pas que j'ai... Alors si, sur mon compte contournement, j'ai peut-être accès à Gemini Advanced, il faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Je n'y avais pas pensé, en fait, avant de le dire là. Voilà, ça c'est la petite news du côté de Google, mais bon voilà, comme quoi Google est toujours aussi un petit peu dans la course, en tout cas en termes d'interface, de fonctionnalité, dans ce que vous pouvez avoir accès. Donc voilà. Un autre acteur qui est plus que jamais dans la course, c'est Perplexity. Perplexity, c'est un éditeur c'est un acteur du monde de l'IA, évidemment. Il propose des interfaces conversationnelles, ils ont des modèles à eux et ils ont des modèles qui vous pouvez utiliser dans Perplexity, aussi Claude, ChatGPT, etc. La particularité de Perplexity depuis toujours, c'est de pouvoir se connecter à Internet et d'enrichir les réponses venant des LLM avec des données venant de recherche internet. Donc Perplexity, maintenant, il est beaucoup utilisé par plein de gens, un peu à la place de Google. Moi, je ne suis pas très fan, j'aime bien toujours les recherches à l'ancienne, et je n'ai pas envie d'avoir tout le temps de l'IA de partout qui me prémâche la réflexion. Mais il faut dire que Perplexity, je trouve que c'est un acteur qui est intéressant parce qu'ils essayent d'innover. Et donc, ils ont aussi leur propre modèle, dont j'ai prévu de faire une vidéo, d'ailleurs, leur modèle Sonar, qui est un modèle qui est entraîné, enfin, qu'ils ont construit à partir de Llama, il me semble. Voilà, qui est assez intéressant, qui a aussi un mode de raisonnement, enfin voilà, qui est accessible via API. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est la fonctionnalité Deep Research. Parce que ChatGPT a fait le buzz, enfin, le soi-disant, en tout cas, je sais pas, moi je pense que c'était pas un grand buzz, mais ils ont mis beaucoup d'efforts de communication sur la fonctionnalité Deep Research. Donc en gros, vous lui faites une demande et lui, il prend 5-10 minutes, voire jusqu'à une heure, pour vous faire des recherches hyper fouillées avec sur Internet, avec du raisonnement, machin, et vous faire un rapport par rapport à votre question. Par exemple, vous voulez faire une étude de marché sur tel ou tel sujet, au lieu de vous répondre en 30 secondes, il va prendre le temps de faire des vraies recherches et puis vous donner un rapport. Et bah, Perplexity a sorti une fonctionnalité similaire, gratuite, parce qu'il faut savoir que chez ChatGPT, c'est accessible avec le prompt pro à $200. Chez Perplexity, c'est gratuit. Alors, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas en faire de 2 millions, mais vous pouvez en faire quelques-unes par jour, ce qui, à mon avis, est très largement suffisant déjà, vu qu'on n'a pas forcément tant que ça besoin. Mais c'est assez intéressant, ça fonctionne assez bien. Je l'ai testé tout à l'heure, puis j'ai regardé une vidéo dessus. Il y a des fonctionnalités assez sympas. Déjà, ça va assez vite, ça met quelques minutes. Vous pouvez voir en plus, en même temps que ça se passe, là, son raisonnement et tout, donc c'est assez intéressant. Vous pouvez arrêter en plus à tout moment et tout. Et vous avez aussi la possibilité de publier, un petit peu comme si vous publiez une page Notion, vous pouvez publier votre recherche et la partager. Ça, je trouvais que c'était assez sympa. Donc voilà, c'est assez bien fait. Ça a le mérite d'être gratuit. C'est assez quali. Moi, je lui ai demandé tout à l'heure un vrai besoin que j'avais, c'est-à-dire je voulais faire un petit benchmark des meilleures solutions pour envoyer des emails transactionnels. Et très franchement, la réponse qu'il m'a trouvée, il m'a évité d'aller sur un plan payant. C'est-à-dire que j'allais prendre un compte Postmark, parce que j'ai un compte MailerSend. En fait, je vous raconte vite fait l'histoire, et vous inquiétez pas, les trois autres news vont aller assez vite. Mais donc, pour plein de projets, en ce moment, je fais plein de projets, je code plein d'apps, je fais plein de trucs, un peu trop d'ailleurs, ce qui fait que là, j'enregistre cet épisode à 10h30 et le soir. Mais voilà, j'ai plein d'idées, et donc forcément, dans les idées, y a toujours des besoins d'emails transactionnels. Là, notamment pour le cercle des ops, j'essaye de faire ça un peu plus proprement qu'avant. Et donc, j'étais parti sur MailerSend à la base, qui est un outil que j'aime bien. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en payant, c'était assez cher. Et donc, j'ai voulu chercher. J'ai fait une recherche rapide, j'ai trouvé Postmark, dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'allais prendre un compte, mais littéralement, j'allais commencer à m'inscrire. J'avais vu qu'il y avait un mois gratuit, et puis après, c'était $15, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, $15, c'est mieux que 35 de MailerSend. Pourquoi pas? Et puis après, je me suis dit, non, mais faisons quand même un petit benchmark. En plus, c'est l'occasion de tester Perplexity. Je lui ai mis tous mes critères, tout ce que je voulais, et il m'a dit, par rapport à ce que tu veux faire, déjà il a fait le benchmark, et il m'a dit, par rapport à ce que tu veux faire, avec Mailjet, ça sera gratuit. Et effectivement, juste par rapport à mes contraintes, c'était gratuit et extensible, j'ai quand même des contraintes où je l'utilisais sur plusieurs domaines, je n'ai pas envoyé tant que ça d'email, mais voilà, des contraintes qui faisaient que chez les autres je devais payer, chez Mailjet c'est gratuit. Donc c'est plutôt cool, en plus Mailjet, c'est quand même... C'était une boîte française, je crois qu'ils ont été rachetés. Mais voilà, donc ça, j'allais passer à côté de quelque chose. Donc c'était assez cool. Donc voilà, comme quoi, hein, c'est vrai que par de base, j'avais l'impression que ce Deep Research n'était pas une fonctionnalité. Enfin, quand j'ai vu sur ChatGPT, parce qu'ils ont fait tout un foin, je disais bon, pas vraiment hyper utile dans mon contexte. Et puis en fait, là, j'ai trouvé un fonctionnement. En tout cas... Pour Perplexity, j'aurais pas payé $200 pour avoir accès à ça, mais là, avec Perplexity, je dois dire que j'ai été assez bluffé. Donc voilà, ça, c'était ma deuxième news. Donc, allez tester. Vraiment, c'est gratuit. Essayez de trouver un cas d'usage un peu intéressant. C'est toujours la même question. Hein. Lui demandez pas la hauteur de la tour Eiffel, hein, parce que bon, ça, c'est, de toute façon, c'est pas un bon test. Mais vraiment, truc facile, benchmark, quand vous hésitez entre différentes solutions, franchement, ça marche très bien. Alors, trois petites news sur trois acteurs qui sont en compétition, qui ont chacun sorti des news un petit peu différentes. Alors, il y en a un, c'est pas vraiment une news, mais c'est un truc que j'ai remarqué, que je trouvais intéressant, que je voulais commenter. Lovable, Bolt et WeWeb. c'est vraiment, donc il y a eu les annonces, hein, que j'ai beaucoup commenté là, longuement, les annonces de WeWeb. Donc WeWeb rentre dans cette catégorie maintenant, vraiment de la création d'applications par IA, mais pas que. Et vous allez voir, c'est intéressant, il y a une forme de convergence. Donc WeWeb, on l'a dit, on peut, donc c'est un, depuis très longtemps, on peut faire des applications avec WeWeb en mode programmation visuelle. Puis ils ont ajouté leur WeWeb AI qui permet d'avoir une conversation, puis ça génère des modules, et puis ensuite on peut les modifier à la souris. Eh bien, Lovable, qui était un outil qui est parti à l'inverse, Lovable qui est apparu en fin d'année dernière, où vous lui donnez un prompt et il vous génère tout le code, et puis vous pouvez que prompter et générer du code, eh bien ils ont ajouté une fonctionnalité très très intéressante, très très maligne, c'est un petit éditeur visuel. Donc c'est toujours pareil, vous promptez, il vous génère du code, il vous montre à quoi ça ressemble, sauf que maintenant vous pouvez sélectionner des éléments. Admettons que vous avez fait, voilà, bah, toujours mon exemple de la boîte mail Cyberpunk, et bah, si vous voulez réduire l'espace, par exemple, entre le titre et le début des emails, eh bien, vous pouvez vous sélectionner, et puis il y a une petite fenêtre qui apparaît, qui est assez limitée, mais il y a tout ce qu'il faut de graphique, et vous pouvez augmenter la marge. De la même manière, si vous voulez modifier les éléments texte, voilà, vous, au lieu de lui demander en prompt, vas-y, modifie-moi tel titre, et lui, il va aller consommer des tokens parce qu'il va appeler une IA, et bien vous pouvez le faire en mode à la souris. Franchement, c'est très très malin. Donc c'est marrant, c'est eux, alors ils vont avoir à faire tout le chemin inverse de WeWeb. C'est là où WeWeb, je trouve, a beaucoup d'avance, évidemment, c'est qu'eux, ils ont un éditeur no-code full qui est pas loin de rivaliser avec Webflow sur vraiment tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout maîtriser sur votre interface graphique. Et en plus, ils ont ajouté la partie conversationnelle. Lovable vient de la partie conversationnelle, génération de code, et là, ils ajoutent, mais c'est vraiment, ils ont ajouté, allez, 5% de WeWeb, et encore, je suis peut-être gentil, il faudrait que je vois. Mais c'est 5%, par contre, qui font bien le taf, quoi. C'est qu'ils sont... Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je vais vraiment suivre de très très près tout ce game. Je peux vous dire, hein, je pense que globalement, il y a 5 outils que je vais suivre plus spécifiquement hein, dans mes contenus, que ce soit le podcast ou la chaîne YouTube. C'est Bolt. Okay, voilà, j'aime bien Bolt, même si je dois dire que j'ai vraiment dans ma liste de vraiment beaucoup plus testé Lovable. Mais donc voilà, il y a Bolt, Lovable, donc ils sont un peu des clones. Hein, puis tous les autres qui sortent derrière, qui copient, ça ne m'intéresse pas. Mais Bolt et Lovable, c'est les deux qui me paraissent les mieux placés. Donc ça m'intéresse. WeWeb, évidemment. Voilà. Et puis Cursor et Windsurf dans la catégorie un peu plus IDE, un peu plus fine, un peu plus technique. Voilà, moi je vous dis, je pense que le futur, et vous pouvez enregistrer 17 février 2025, je pense que le futur se joue entre ces cinq outils. Je serais surpris que, on ne sait jamais hein, évidemment, hein, mais là, ces cinq outils, ils ont des approches un peu différentes, mais ils ont de l'avance. Tout le reste ne fait que copier, n'a pas forcément les mêmes moyens. Rappelez-vous hein, que Bolt, ils ont levé 100 millions hein, quand même. Hein. Je pense que Lovable, ils ont dû aussi lever de l'argent et probablement ils en lèveront encore. Mais voilà, ils sont bien partis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lovable, ils avaient déjà un produit avant qui s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, AI Engineer, je ne sais plus. Là, enfin, ils avaient un truc. Donc bon, voilà, ils partaient pas de rien. Et ils ont. Voilà, moi, je croise des gens dans la communauté no-code qui préfèrent Lovable. Bref, il faut que je me fasse mon avis. Je suis un peu biaisé parce que Bolt. Je les ai contactés, ils m'ont donné un peu de crédit pour que je puisse tester et tout. Donc voilà, mais bon, je suis pas prêté allégeance à Bolt, mais bon, j'aime bien. C'est les premiers. Moi, j'ai toujours un truc pour ceux qui innovent les premiers. Je trouve qu'il faut mérite un peu, mais bon, si Lovable sont meilleurs, Lovable sont meilleurs. Mais on va suivre. Et Bolt, du coup, petite news du côté de Bolt. Bolt, ils ont annoncé un mode appli mobile. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Alors, Lovable, j'ai testé. Bolt, j'ai pas encore testé le mode mobile, mais je vais faire une vidéo dessus, je pense. J'ai prévu pas mal de vidéos. J'essaie d'en faire un max là, cette semaine avant de partir en voyage bientôt, là, où ça sera un peu moins facile, même si je pourrais toujours en faire. Mais donc, Bolt, voilà, un mode mobile où ça va générer du code React Native qui va donc vous permettre à la fin de faire des applications natives. Et donc, ils utilisent un système qui s'appelle Expo qui vous permet d'avoir sur votre téléphone la prévisualisation de ce que vous utilisez. Donc c'est assez fort, c'est intéressant. C'est intéressant, le mobile c'est assez casse-gueule, mais c'est un secteur où il n'y a pas d'outil no-code qui s'est vraiment imposé. Voilà, il y a Flutterflow. Alors je ne sais pas si Flutterflow ont pris le même tournant que WeWeb et qu'ils ont... C'est un outil que je ne suis pas du tout. mais là un peu la référence, c'est Flutterflow. Mais voilà, il faut voir s'ils ont tout ce côté IA, génération rapide de code en mode conversationnel. Mais voilà, Bolt ont ça, donc voilà. Donc on verra, vous voyez, chacun de ces acteurs, c'est des petites équipes encore, hein, donc ils doivent faire des choix. Et puis voilà, ils communiquent aussi beaucoup sur les features et voilà, donc comme ça, on suit. Mais c'est intéressant. Et le dernier truc, c'est WeWeb, donc dans le cadre de WeWeb 3.0. Donc il y a eu pas mal d'annonces, hein, j'ai beaucoup commenté, mais il y en a une que j'avais pas vu passer. Et donc c'est ma dernière étude du jour. J'avais pas vu en fait que dans leur mode, donc leur IA, donc quand on est en mode conversationnel, on lui demande, on lui dit, vas-y, fais-moi une interface email cyberpunk, il vous fait tous les éléments, vous pouvez les modifier, etc. Mais un truc que j'avais pas vu, et qui est hyper malin, et qui est surtout hyper puissant, c'est que, donc quand vous lui dites, fais-moi une interface, bah, il va utiliser les composants de base qui sont présents dans WeWeb. Il va mettre des blocs, il va mettre du texte, il va mettre des divs, comme on dit, il va mettre tous ces éléments. Il va, si vous lui demandez un slider, il va utiliser le composant slider qui est déjà présent dans WeWeb. Mais si vous lui demandez quelque chose qu'il ne sait pas faire, eh bien, vous avez la possibilité, enfin, qu'il ne sait pas faire, il sait tout faire, justement, parce que la fonctionnalité que je vais vous dire. Mais si vous lui demandez quelque chose qu'il n'est pas natif déjà dans WeWeb, par exemple, ils donnaient un exemple dans leur vidéo. Si vous voulez un slider où vous pouvez, avec deux curseurs dans le slider, vous voyez, donc, c'est, imaginez un slider, c'est, par exemple, vous voulez choisir une note de 1 à 10, puis vous avez un petit curseur que vous voulez, et vous positionnez sur la note que vous voulez. Bah, des fois, quand on veut définir range, une plage, eh bien, on veut deux curseurs pour pouvoir mettre le début de la plage et la fin de la plage. Et donc, il disait, bah, ça n'existe pas nativement dans WeWeb, mais il n'y a pas de problème. Il suffit de demander à WeWeb AI, fais-moi un custom component, donc un composant custom, et vous allez vous retrouver avec ce composant, et potentiellement même, vous allez pouvoir le paramétrer, ça va devenir comme un composant WeWeb que vous pouvez modifier ensuite par l'interface graphique. Donc, ça, c'est très très fort, j'ai vraiment hâte de le tester. Mais encore une fois, vous voyez, il n'y a plus de limite en fait. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'avec Bolt et Loveable, il n'y a pas de limite puisqu'on génère du code. Vous pouvez tout lui demander, il va le faire. Avec WeWeb, on aurait pu croire qu'il y aurait des limites parce que il y a tous les composants qu'il sait faire. Ben non, vous pouvez vous évader de ça. Et de toute façon, cette mécanique de composants, on en a parlé déjà quand j'avais interviewé Raph et je l'avais bien vu depuis longtemps, c'est déjà celle-là qui permettait depuis longtemps de, dans un usage avancé de WeWeb, de repousser les limites. C'est-à-dire que quand WeWeb était full no-code avant l'IA, si vous aviez des limites à la partie no-code, vous demandiez à un dev de vous faire un composant vue, et puis voilà, ça repoussait les limites. Là, maintenant, vous n'avez même plus besoin de dev. Vous auriez pu, alors déjà, même s'il ne l'avait pas intégré, vous auriez pu, de toute façon, générer avec Claude, par exemple, un petit composant vue, et puis le mettre dans WeWeb. Sauf que là, ils ont intégré ça directement, et c'est très très fort. Voilà, donc vous le voyez, encore une fois, je vais me répéter, mais on va vraiment pas s'ennuyer en 2025. Moi, je commence à voir aussi beaucoup plus maintenant que je commande, je prends des notes, je regarde toutes ces actualités avec un prisme qui est celui de ce que je veux faire maintenant dans cette nouvelle activité que je mène, toute cette création de contenu. Et ben voilà, je vous l'ai dit, ces 5 outils notamment, ça va être le socle. À ces 5 outils, je vais ajouter des compétences, je vais ajouter un petit peu de prompting, de LLM, etc. Et à mon avis, voilà. Alors, d'ailleurs, ces 5 outils, vous n'avez pas besoin de vous former à tous. Moi, je vais suivre les 5 pour décider lequel est le meilleur. Mais entre Cursor et Windsurf, il faudra choisir. Entre Bolt et Loveable, il faudra choisir. Et puis peut-être même entre Bolt, Loveable et WeWeb, il faudra choisir. Et puis on verra, on fera des choix éclairés. Parce que, on aura commenté tout ça longuement, tous ensemble. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était... Bon, faut que je fasse attention. Je m'étais dit que les épisodes dans ce podcast seraient plutôt courts. Mais voilà, en fait, en ce moment, j'avoue que aussi, j'ai beaucoup de... J'ai des journées hyper remplies. Et donc, je ne prends pas le temps de faire assez d'épisodes. Donc du coup, je me retrouve un peu à accumuler. Mais voilà, mais typiquement, on va reprendre un rythme. J'essaie de pas dépasser les 10 minutes. Parce qu'après, ça fait long. Mais bon, voilà, venez commenter sur le Slack de NoCode France, comme d'habitude. On continue à parler de tout ça. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.